C'est en cours de traitement, beaucoup de travail d'archiviste qui aboutira à la mise à disposition aux Ivriens de l'ensemble de nos 40 ans d'émission.
Alors, Yolande me demande de commenter une phrase de Jean-Jacques lors d'une interview pour les 25 ans. Tant qu'il y aura des enfants pour poser des questions, Radio Cartable existera. Je n'en suis pas très sûre, moi, en ce moment. D'ailleurs, vous n'avez entendu pratiquement que des adultes qui intervenaient. Avec nous, il n'y avait pas d'enfants. Il y avait des enregistrements d'enfants, mais pas d'enfants. Et bien sûr, les enfants savent poser des questions, mais ils ont besoin d'être guidés et surtout, ils ont besoin qu'on suscite leur curiosité. Et Radio Cartable ne peut exister que si des enseignants prennent en charge cet outil innovant et tellement riche. Voilà Jean-Jacques, tu avais raison, mais pas sûr que ça continue. On espère.
Bon, on vous a présenté l'histoire de la première décennie de Radio Cartable, donc je vous le rappelle, née en 1984, qui a fêté ses 10 ans en 1994, ses 20 ans en 2004, ses 25 ans en 2009, avec une grande fête qui a rassemblé les Ivriens, ses 30 ans en 2014, une grande, grande fête à l'espace Gérard Philippe. Eh bien, à bientôt pour fêter tous ensemble ses 40 ans à l'espace Gérard Philippe, c'est sûr, en 2024. La date sera à préciser.
Ben, on espère. Le projet, ce serait de faire une petite balade radiophonique pour faire écouter le travail des élèves. Donc là, cette année, il y a un travail qui est fait sur les sons des quartiers. Donc 4 UPE2A participent et on espère avoir un financement pour pouvoir faire participer 4 autres classes à ce projet. Et les archives de Radio Cartable seront en partie exploitées dans ce projet, puisque l'idée, c'est de relier les lieux d'Ivry à des interviews ou des petites émissions qui ont été faites en lien avec ces lieux. On vous donne rendez-vous, classe et famille, pour se retrouver autour de cet outil. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été tous là.
Et puis un merci aussi aux enseignants et aux élèves de ces 40 dernières années d'avoir produit. Merci à nos invités autour de la table d'avoir bien pu se réunir dans ce studio mythique. Puis merci à ceux qui continuent de faire vivre Radio Cartable.
Oui, bravo! Vive Radio Cartable!
Happy birthday!
Eh oui, Tanta Guri!
Je lui dis de me ramener des celtiques au prix marqué afin de fumer taxé. Un peu de sucre, un peu de farine pour faire la pâte très fine. Raviolis, spaghettis, gnocchis et capelletti. Quand ma femme rentre du marché, elle me sort tous ses paquets. Un cigare de Mexico gros comme un cachalot. Un hibou nommé Tom Black, neuf de l'île de Pâques. Du shampoing pour les moins, du suspense et du linge à poisse. Alors elle me dit, mon petit chéri, v'là ta part de poésie. Dans mon panier, y a des idées que t'as plus qu'à ramasser. Des oranges au canard, de l'étrange au bizarre. Bref, tout ce qu'il y a de chouette. Prends ta plume, mon Pierrot, que j'allume ton flambeau à chansonnette. Quand ma femme part chez le coiffeur, je lui dis fais-moi une fleur. Ramène-moi du sentibon, du bat, du pas trop con, de celui qui se fait se retourner, les snobs et les émousemés, du carven, du patou, de l'obscène et du passe-partout. Quand ma femme revient du coiffeur, elle me dit voilà mon cœur, de l'extrait de fleur de Marie, tout ce qu'il y a de plus garanti. Des crayons pour faire les yeux, aux larmes du pot au feu, de l'ardenne, du rubis, du rucheten et du tout ce qui s'essuie. Alors elle me dit, mon petit chéri, v'là ta part de patchouli dans ma forêt pour te parfumer ta cape vaporisée. Du genièvre à tes lèvres, du chien dent pour tes dents, bref, tout ce qu'il y a de nat. Naturel, nature liche, au javel pour les miches, c'est-y, pravote. Quand ma femme part au marché, je lui dis de me ramener un pyjama genre Vichy pour faire mon petit persil. Des voyages en carte postale pour les cinglés de la malle. Tahiti, Côte d'Asie, Malaisie, Malassie aussi. Quand ma femme rentre du marché, elle me sort tous ses paquets. La liquette du père Adam, à se foutre elle sous la dent. Un chouette kaléidoscope.
Bonjour, vous êtes bien sur 89.4 FM, Radio Libertaire, et je suis désolée de vous annoncer qu'en raison d'un problème technique, l'émission Bibliomanie ne pourra pas être diffusée comme prévu aujourd'hui. Donc l'interview de Jessica Nelson sera diffusée en janvier, probablement le 12 janvier. Avec mes excuses...
Note, Gourbi, un Giotto, un Coron, un Pablo et un Picasso. Quand ma femme part au shopping, elle me chope toutes nos sterling. Les paluches barrées d'un chèque, v'là que se barre nos copecs. Nos dollars dans le machin chouette, nos florins chez Macbeth. Othello, mon coco, l'aura lire, chez Shakespeare à dire. Alors elle me dit, t'as pas fini d'écrire des i. Aussi, je connais Isou et les Azous et l'écriture et tout. Au pays de Descartes, les conneries se foutent en carte ou ok, Conti. T'es barré pour y aller à la Cacadémie, ok, mon petit.
Radio Libertaire 89.4.
Fils de Maya, de Harlem ou de Cuba, frappe le tambour, dansez, les dieux invitent vos corps. Dans leur désespoir, aux pères noirs transportés aux Amériques, déjà nous honoraient, nous les pintades. Liés à l'eau, à la lune, à la déesse de l'amour, et des rivières noires en fécondité, blanc de mort, mon plumage est pointillé. Fils de Bahia, de Harlem, de Cuba,
frappe les tambours, dansez, les dieux invitent vos corps. Dans la vie africaine, les guérisseurs utilisent nos os. Le bambara cherche à imiter notre cri en frottant une clé contre le fer d'une houille. Que celui qui dévoilera ce secret soit fendu. Gibier idéal, on se déplace à terre. En bande, on s'affole pour rien. De Paya, de Harlem ou de Cuba, frappe les tambours, dansez, les dieux habitent vos corps. En Arabie du Sud, en Irak, au Liban, sans égard pour nos barbillons bleus, les enfants nous abattent à coups de pierre et nous vendent en ville. À la Jamaïque, ils sèment des grains imbibés de rhum. On n'y résiste pas, on picore. On picore, on s'enivre et on se laisse ramasser. Fils de Paya, de Harlem, de Cuba, frappe les tambours, dansez.
Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins. Jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. résident, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Parlerai moi. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moi. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, 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 je sais pas, 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 je sais pas, 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 je sais pas, pas.
Avec leur manie, dans leur chambre blindée, leurs fleurs sont carnivores. Et quand leurs monstres jouent trop près de la sortie, ils accouchent de scorpions et pleurent des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunkers à 4 heures du matin derrière un téléphone. Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver, ils s'invitent à calter en se gueulant comme eux. Les dingues et les poumées se cherchent sous la pluie et se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescales masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant la boue folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leurs lignes et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Les dingues et les poupées se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll, qui s'enfonce comme des rats dans leur banlieue by now, essayant d'accrocher un regard à leur peau. Et lorsque leur tumba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moins et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin.
Les dingues et les paumés s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau. Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la poule les dernières fleurs du mât. Ils ont pu s'enivrer des chants de Maldoror, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les poules sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott: la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes Valkyries pour tes valseurs mazous, mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar, et cet ange qui me gueule vient chez moi.
Bonjour, vous êtes bien sur 89.4 FM, Radio Libertaire, et c'est l'heure de Bibliomanie. La rediffusion a dû être repoussée pour des raisons techniques, mais nous pouvons, ça y est, le fichier peut être diffusé maintenant. Donc l'interview de Jessica Nelson sera bien rediffusée soit en décembre, soit en janvier, mais vous allez pouvoir l'écouter aujourd'hui. Bonne écoute.
Marie Marchand, avec la accompagnement technique de Xavier Lecomte, que je remercie et salue très. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec l'accompagnement technique de Xavier Lecomte, que je remercie et salue très chaleureusement. Cette émission est consacrée à Jessica Nelson et à son cinquième roman, L'Orageuse, paru aux éditions Albin Michel et qui vient de recevoir le prix littéraire de la ville de Verneuil, d'Avre et d'Iton. Ville où repose Louise Collet, le personnage principal de son roman, qui fut notamment la maîtresse de Gustave Flaubert. Mais je laisse à Jessica Nelson le soin de vous présenter les principaux épisodes de cette vie infiniment romanesque. Jessica Nelson, bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez de publier aux éditions Albin Michel un roman dont le titre est L'Orageuse, qui est un roman avec pour personnage principal, effectivement, une orageuse, Louise Collet. Et en couverture, je peux lire la citation suivante: « Je peux faire comprendre à toutes les femmes ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut exiger. » Je suppose que cette citation mise en exergue, ce n'est pas un hasard, Jessica Nelson.
Tout est toujours très pensé. Oui, c'est une citation qu'elle a dû envoyer dans une lettre à un député de Roumois à l'époque, dans les années 1850, qui était, qui était son galant, son amoureux. Et c'est un moment de sa vie. Alors sa vie est très riche, très complexe. Elle embrasse tout le 19e siècle. Je pense qu'on le verra ensemble. Et donc c'est une période de sa vie où, en effet, elle commence à prendre des positions qui sont très affirmées dans tout ce qui concerne le féminisme, hein, puisqu'on peut déjà commencer à parler de féminisme à cette époque-là, l'art, la culture, la politique, et c'est une femme qui assume ses convictions.
Alors pourquoi ce roman, Jessica Nelson? Est-ce que on a l'impression vraiment que Louise Collet, d'abord c'est une ingérable, qu'elle est surdouée. Voilà ce que vous écrivez: Louise était capable de réciter des chapitres d'ouvrages qu'elle n'avait pourtant lu qu'une fois et des pages entières de poésie en plusieurs langues. Donc déjà ça nous situe un personnage hors norme, surdoué, une force de la nature, on pourrait dire.
Exactement, je trouve que le terme est très bien trouvé pour elle. C'est une femme qui naît en 1810 dans une famille qui a quelques moyens, dans une famille qui a d'ailleurs une bastide dans le sud de la France, qu'on appelle un peu pompeusement le château de Servannes. Elle est d'ascendance plutôt aristocrate du côté de sa mère et de négociants qui ont quelque argent du côté de son père, mais elle bénéficie d'une éducation qui est assez étonnante pour une femme de cette époque, et elle est dans tout de suite, hein, dès qu'elle est petite, elle a cette appétence pour apprendre, et donc évidemment, comme elle a un père qui va et une mère qui sont des lecteurs, qui sont des gens sensibles à l'art et à la culture, évidemment, elle va tout à fait en bénéficier. Donc elle va apprendre plusieurs langues à cette époque, elle va lire beaucoup, la bibliothèque de son grand-père maternel d'ailleurs, et tout ça va contribuer à en faire une femme extrêmement lettrée dans un siècle où les femmes ne sont pas censées l'être, ou en tout cas c'est pas la norme.
Et pourquoi vous êtes-vous intéressé à Louise Collet? Est-ce que c'est son côté encore qu'on doit la découvrir? Est-ce que ce sont ses lettres, ses manuscrits, puisque vous intéressez beaucoup aux manuscrits? Quel a été un peu votre déclic de départ?
Alors au départ, je pourrais être tout à fait honnête, le nom de Louise Collet m'était assez inconnu. Je connaissais la correspondance de Flaubert, notamment pendant les années où Flaubert écrit Madame Bovary, et donc je connaissais le nom Louise Collet par le biais de Gustave Flaubert. Et puis en creusant un petit peu, parce que évidemment aux éditions des Saint-Pères dont je m'occupe et qui sont spécialisées dans la reproduction de manuscrits, je m'intéresse aux manuscrits de Madame Bovary, donc je m'intéresse à cette genèse compliquée, donc je m'intéresse à son interlocutrice importante de l'époque. Et je découvre là, à ma grande stupéfaction, j'avais dû lire quelques lettres à l'école, mais guère plus, je découvre quand même que c'est une femme à laquelle il fait beaucoup confiance. C'est une femme à laquelle il va se confier, avec laquelle il va échanger des lettres d'une profondeur et d'une beauté absolue. Mais on n'a pas les lettres de Louise Collet. Alors ça tient à plusieurs hypothèses possibles. Les lettres ont été détruites soit par Louise Collet, soit par Flaubert, soit par la nièce de Flaubert, ou les lettres ont pu être dispersées puisqu'on en a retrouvé deux ou trois, mais ce qui est quand même assez peu. Mais globalement, il manquait tout un pan de cet échange. On a celle de Gustave Flaubert, mais on n'a pas celle de Louise Collet. Et donc je creuse ce personnage, et là je tombe sur une histoire... un parcours de vie tellement riche, tellement rocambolesque, tellement romanesque et tellement injuste aussi, dans l'injustice qu'elle a subie elle-même, hein, vis-à-vis de cette grande histoire qu'il l'a oubliée, que j'ai pas pu faire autre chose que d'avoir envie de la prendre par la main, ou en tout cas plus exactement, elle m'a prise par la main pour essayer de raconter son histoire et de la deviner un peu mieux.
Alors voilà ce que vous écrivez, enfin, ou ce que vous lui faites dire. « Mon destin sera plus extraordinaire qu'un roman d'aventure, avait-elle crânement asséné à Rennes lorsqu'elle avait à peine 10 ans. On écrira des livres sur moi, dans 2 siècles, on se souviendra de la femme que j'ai été, sinon pourquoi vivre ?» Et c'est vrai qu'elle est, vous dites encore, serait-ce son drame, tout avoir et même l'amour, trop de fées penchées sur un berceau, ne risque-t-elle pas d'attiser la colère des dieux? Donc c'est quelqu'un de, je parlais de force de la nature, mais qui est très très doué, qui est une surdouée, qui avale la vie à pleines dents. Enfin, elle est vraiment une vivante dans le plein sens du terme.
C'est un peu un des paradoxes de l'histoire, vous savez, quand vous croisez ces êtres tellement... en tout cas, c'est comme ça que je me la représente, et c'est comme ça que un certain nombre de ses contemporains la décrivaient aussi. Hein. Elle a eu ses détracteurs, mais elle a eu fort heureusement aussi des gens qui l'aimaient beaucoup et qui lui étaient très fidèles. Mais quand on croise de ces êtres à qui tout semble réussir, c'est une femme qui a une beauté renversante. D'ailleurs, quand elle débarque à Paris, elle connaît personne, mais sa grande beauté physique va évidemment être un atout dans sa marche vers la littérature et la poésie. Et donc elle a tout, elle est mariée à un musicien dont elle tombe amoureuse et qui va la sortir de sa condition familiale de province et qui va l'emmener à Paris. Mais disons que très vite, la vie semble vraiment lui sourire à tous les égards. Et on se dit forcément, ce sont des gens qui vont marquer l'histoire, qui vont rester dans l'histoire. Et force est de constater, deux siècles plus tard, que non. Et je trouvais que c'était assez... assez incroyable qu'ayant autant écrit, ayant autant aimé, ayant autant inspiré ses contemporains, que finalement aujourd'hui on n'en parle plus.
Mmh. Et d'ailleurs on la qualifie de femme de lettres et de poète, poétesse, j'aime pas trop, mais de femme poète. Donc elle est née Louise Révoil, oui c'est ça. Collet est le nom de son premier mari, Raymond Collet, qui était musicien. Et c'est vrai que c'est grâce à avec son premier mari qu'elle va découvrir Paris. Alors grâce à vous, Jessica Nelson, nous découvrons Paris. C'est quand même on trouve de tout à Paris. Si tu veux des meubles, il faut aller au Faubourg Saint-Antoine, de la Porcelaine, direction le Faubourg du Temple. Quant aux étoffes, c'est dans la rue Saint-Denis qu'on doit se promener. Quoique le mieux est peut-être de se rendre aux galeries du Palais Royal. C'est un bazar digne de ceux de l'Orient. Des bijoux aux liqueurs de Martinique, en passant par les perruquiers, les marchands de draps, les charcutiers et les orfèvres, tout y est concentré, fastueux, abondant. La découverte par Louise Collet de Paris, c'est en soi un roman.
Ah ben, ma découverte du Paris de cette époque aussi, mais c'est vrai que c'est un siècle qui est incroyable parce que, alors elle est née en 1810, elle est morte en 1876, donc elle a vraiment traversé ce siècle, elle a traversé toutes ces révolutions et toutes ces évolutions. Et donc effectivement, une des choses qui m'était importante, c'est venu très spontanément, c'était assez peu réfléchi au démarrage, mais c'est que je voulais vraiment qu'on se la représente dans son siècle, dans sa ville, et dans des ambiances, dans des paysages, avec des couleurs, avec des odeurs. Et il me semblait que c'était très important de retracer tout ça. N'étant pas une spécialiste du 19e siècle, évidemment, je me suis plongée dans une documentation foisonnante et passionnante pour justement appuyer le propos et pour essayer de peindre un tableau très vivant. Très vivant et très changeant, puisque le Paris, là, la description que vous citez, il faut aussi parler d'un Paris qui sent très mauvais parce que, évidemment, on n'a pas le même souci qu'aujourd'hui et pas les mêmes moyens techniques pour rendre Paris respirable. Et donc, voilà, c'est toutes ces influences-là, tous ces grands changements. Évidemment, le 19e siècle, ce sont aussi les transformations d'Haussmann, c'est aussi l'éclairage dans les rues, ce sont toutes ces choses que j'avais envie de mettre en parallèle et en filigrane de son histoire.
Alors, d'abord, elle habite, je crois, rue Bréda, donc ça devient l'adresse d'un salon littéraire. C'est là, elle va recevoir pas mal de personnes, parce qu'elle rencontre, tout le Paris littéraire du 19e siècle. Hein. Et elle va quand même obtenir 4 prix de l'Académie française. Alors, Louise Collet, c'est aussi, j'allais dire, une certaine temporalité. Est-ce que on lui reproche d'ailleurs qu'elle écrit trop vite? Comment être certain, lorsqu'on produit beaucoup, que tout sera d'égale qualité? Louise écrit vite et ignore si c'est de bon augure. Et je dirais presque que c'est ce qui la sépare de ses différents amants.
Oui, alors c'est vrai que, enfin, en même temps, c'est une question qui est qu'elle a forcément dû se poser, parce que je précise, c'est vrai que c'est un roman. On a à disposition des témoignages de ses contemporains et même des fragments de ce qui ressemble un peu à un journal intime hein, qu'elle a laissé derrière elle. Mais puisque c'est un roman, je me suis autorisée quand même à partir dans des interrogations qui sont plus le fruit de mes intuitions que d'une réalité tangible, hein, en tout cas avérée. Et c'est vrai qu'elle écrit beaucoup, c'est vrai qu'on lui reproche aussi. Mais je pense qu'elle obéit à une certaine insatiabilité, à une soif qui est la sienne, d'écrire tout ce qu'elle contient, d'écrire toutes les histoires qu'elle emmagasine, tout ce qu'elle a envie d'exprimer, que ce soit à travers de la poésie, de la fiction, et puis plus intéressant encore à mon sens, des récits de voyage, des reportages avant l'heure, pour une femme évidemment qui a voyagé comme elle a voyagé, et puis des essais, sans parler du théâtre et d'autres textes qui sont des pas de côté, si vous voulez, mais qui montrent aussi l'extraordinaire palette qu'elle avait à sa disposition.
Il y a beaucoup d'inédits de Louise Collet.
Écoutez, pour moi, tout a été publié. Après, c'est vrai que je crois que les gens connaissent très mal son œuvre, et moi la première, hein, quand j'ai commencé ce travail, comme je vous disais, je ne connaissais quasiment rien d'elle, et j'ai découvert, alors évidemment on peut commencer par sa poésie, puisque c'est par là qu'elle a commencé elle-même. Quand elle était toute jeune, elle écrivait beaucoup, elle a même réussi à publier quelques-uns de ses poèmes dans des revues de province, et puis quand elle arrive à Paris, évidemment il y a tout un nouveau monde qui va s'ouvrir à elle, mais au départ, elle ne connaît personne et tout est à conquérir.
Voilà. Alors les conquêtes vont être nombreuses de Louise Collet. après son mari, donc il y a un dénommé Hippolyte. Et Hippolyte, c'est un peu son opposé. Il manque un peu de courage, on va dire. Autant elle est tout feu tout flamme, autant lui, il ose rien. Vous écrivez, il n'osera pas. Hippolyte n'ose pas grand chose. C'est même à cela que Louise le reconnaît. Et puis voilà, elle est, bon, ses relations avec Hippolyte, c'est un peu moyen, on va dire. Et puis il y a surtout Victor Cousin, qu'on surnomme le roi des philosophes et qui va être son protecteur, on va dire, dans le milieu littéraire, et qui a de l'estime pour elle, et qui a de l'admiration.
Ah bah, écoutez, quand elle arrive, donc elle a 25 ans, 26 ans, elle arrive avec son mari Hippolyte à Paris. Ils ne connaissent personne. Lui est déjà au conservatoire. Il a déjà un petit nom, mais il est dans l'ombre de Cherubini. Et c'est vrai qu'il va jamais sortir non plus. Malheureusement, son nom va pas rester non plus dans l'histoire. Et elle, très rapidement, s'ennuie dans ce mariage qui finalement n'a pas l'éclat qu'elle est venue chercher. Et elle fait la connaissance. Mais ce qui est intéressant, c'est de bien dire que c'est après. Elle remporte d'abord son prix de l'Académie française pour un poème qu'elle a composé, parce que chaque année il y avait des thèmes qui étaient imposés par l'Académie française, et elle répond au concours, elle a ce poème qui est donc primé, et ensuite seulement, c'est important, elle rencontre Victor Cousin, l'homme fort de la Sorbonne, traducteur de Platon, qui va être ministre de l'instruction publique, un personnage vraiment très important, et il va tomber complètement fou amoureux d'elle, et c'est une passion qui va durer. Donc elle devient sa maîtresse, et si vous voulez, dans le temps, ce sera circonscrit, parce que bah, elle est mariée, et puis même si Victor Cousin souhaitait l'épouser, hein, quand le mari de Louise Collet disparaît, la question revient sur le tapis. Mais en tout cas, cette idylle ne va pas durer dans le temps, mais lui gardera pour elle des sentiments extrêmement forts et longtemps. Et ça n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'hommes qui, et de pas que des hommes, d'ailleurs des hommes et des femmes, qui comprennent qui elle est.
Et c'est une femme à la mode, Jessica Nelson, Louise Collet. Est-ce qu'elle aurait pu être blogueuse, par exemple? Vous dites, elle reçoit toujours des bouquets de fleurs d'un admirateur anonyme qui joint parfois des billets pour l'opéra. C'est grisant et flatteur. En un mot, Louise est à la mode. Mais les modes ne sont pas faites pour durer. Elle le sait et n'a pas l'intention d'autoriser le vent à souffler sur sa nouvelle popularité pour l'éteindre. Donc elle a bien conscience qu'elle est dans l'air du temps, que c'est une femme de son temps, voire un petit peu en avant. Mais elle n'est pas dupe, et c'est vrai que Victor Cousin, au moins, l'aime telle qu'elle est.
Oui, et je pense que de toute façon, elle avait très certainement, et c'est pour ça que l'orageuse, qui est en fait un nom que lui a attribué Gustave Flaubert dans une lettre, mais c'était une femme sans concession, et c'était une femme, je pense, qui se montrait vraiment telle qu'elle était. Il fallait tout prendre, il fallait prendre son talent, sa passion, son caractère très volcanique, et sa grande beauté, sa grande intelligence. C'était un ensemble, mais c'était un ensemble qui a bousculé effectivement son époque, et qui l'a rendu, comme vous disiez très justement, qui a fait d'elle une star. C'était une star de son époque, une star à Paris, et puis une star au-delà de Paris et des frontières françaises, puisqu'elle était connue en tant qu'auteur, en tant que poétesse et romancière. Elle était connue en Angleterre, en Italie, et donc oui, je pense qu'on peut parler déjà d'un phénomène de starisation au 19e siècle, ce qui peut paraître curieux, mais qui est vraiment, quand vous lisez les témoignages de ses contemporains, qui est d'une évidence.
Et puis il y a ses premiers livres qui paraissent. Alors vous dites, les dites splendeurs sont donc des livres, mais pas n'importe lesquels. Il s'agit d'un tirage de 25 000 exemplaires intitulé La poésie de Madame Collet, imprimé sur velin et relié en maroquin rouge, incrusté de dorures, inséré dans des étuis en ébène. Donc il y a le soin aussi apporté à ses écrits. Elle en est très soucieuse. C'est ce qui la rapproche de Victor Cousin.
Oui, alors ça, c'est certain que, évidemment, publié pour elle, c'est une priorité. C'est son objectif, c'est affiché quand elle vient à Paris, quand elle commence à démarcher des revues pour lesquelles elle a envie d'écrire des articles, dans lesquelles elle a envie de publier ses poèmes. Et là, le tirage auquel vous faites allusion, c'est assez génial, parce que quand elle reçoit ces exemplaires-là, qui a un tirage de 25 exemplaires, qui est un tirage extraordinaire, et en fait, c'est un admirateur qui a, dans son coin, sans rien demander à personne, qui lui a fait imprimer et relier et mise en cassette ces exemplaires. Et elle ne sait pas du tout d'où ça vient au départ. Maintenant, on sait que c'était un de ses admirateurs qui était pharmacien, qui était un type tout à fait très bien, hein, certainement, mais qu'elle ne connaissait pas à l'époque. Je ne suis pas sûre qu'elle ait jamais su qu'il s'agissait de lui. Ça reste. Les sources que j'ai à ce sujet sont pas tout à fait concordantes et j'ai tranché dans le livre en imaginant que son mari et Victor Cousin avaient enquêté et qu'on avait trouvé le nom de son fameux admirateur. Mais en réalité, je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est absolument génial de se dire que un matin, vous ouvrez votre courrier et que vous voyez ces trésors arriver comme ça qui viennent de nulle part. Et toute sa vie, elle est un peu comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle ouvrait sa porte ou qu'on ouvrait un livre, il y avait une surprise. Voilà.
Il y a une surprise et elle a un soin à ses écrits. Alors, dans sa correspondance, puisque nous en avons parlé tout à l'heure, Jessica Nelson, elle est très scrupuleuse. Aussi exige-t-elle, dites-vous, qu'on lui rende afin de les détruire certaines habitudes, mais qui lui procure un soulagement lorsqu'elle récupère le fruit de sa production épistolaire. Elle brûle ses lettres, elle les détruit aussi.
Oui, tout à fait. Et ça, je l'ai appris en lisant, évidemment, pour écrire ce roman. Je me suis appuyée sur des biographies et des sources documentaires très sérieuses. Et ça, c'était vraiment étonnant quand j'ai lu ça et que j'ai retrouvé dans plusieurs sources différentes, c'est qu'elle ne laissait pas le courrier abondant, parce qu'elle écrivait vraiment beaucoup. Je pense que chaque matin, bref. Elle était à sa table de travail pour écrire son travail de artistique, mais aussi communiquer. Et donc, elle avait ce souci-là de récupérer toutes ses lettres. Donc, évidemment, c'est un peu frustrant parce que, surtout dans le cas de la correspondance avec Flaubert, que moi, je me suis imaginé, j'ai imaginé les réponses qu'elle pouvait faire à Flaubert. Donc ça sort de mon imagination, mais j'aurais adoré être une petite souris et pouvoir vraiment lire ses réponses à elle. Et je crois qu'elle avait déjà ce souci, mais qu'on ferait bien d'appliquer aussi à notre époque. Et c'est en ça aussi où elle est, encore une fois de plus, qu'elle est avant-gardiste, c'est que elle fait attention aux traces qu'elle laisse et qu'elle a pas envie que ça se retourne contre elle. Et probablement qu'elle devait envoyer des missives enflammées dans tous les sens du terme.
Ah oui, surtout qu'elle n'hésite pas. Des fois, il y a eu même un critique. Je crois que c'est Alphonse Carr. Elle s'attaque à un journaliste pour que nous racontiez ça.
Ah ben ça, c'est un des épisodes géniaux de sa vie. C'est que imaginez Louise Collet enceinte. Elle est donc mariée à Hippolyte. Elle a pour amant Victor Cousin, qui est ministre de l'Instruction publique, personnage très en vue. Elle ne sait pas du tout si l'enfant qu'elle attend est celui de son mari ou de son amant. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fiche. Tant mieux pour eux. Et un critique de l'époque, qui est un ancien journaliste du Figaro, si je ne me trompe pas, a monté une petite feuille de chou satirique, vraiment féroce, qu'il a appelé les guêpes. Et dans les guêpes, ça pique, évidemment. Et donc, il va faire paraître plusieurs bons mots à l'encontre de Louise et de Victor Cousin, parce que c'est vraiment rigolo de leur taper dessus. C'est facile aussi, mais enfin bon, il s'en donne à cœur joie. Et donc, il va écrire, évidemment, que... Je sais plus comment c'est formulé, mais qu'elle a été victime de la piqûre d'un cousin, etc. Enfin, il détourne évidemment, et elle ne le supporte pas parce que, imaginez, elle est quand même femme enceinte, un peu vulnérable malgré tout à la rumeur publique qui n'est pas excellente puisque mari et amant, etc. Et donc, elle demande à son mari de l'aider à venger son honneur. Évidemment, Hippolyte n'a pas du tout l'intention d'aller provoquer en duel Alphonse Carr, donc elle s'en occupe elle-même. Un matin, elle sort de chez elle avec un couteau de cuisine, elle essaye de lui planter dans le dos. Voilà, pour vous situer un peu le personnage. Alors, elle le blesse très superficiellement, parce que le garçon était quand même coutumier d'attaques diverses et variées, puisqu'il piquait beaucoup. Et donc, il porte une cotte de maille, ou en tout cas, une espèce de gilet pare-balles de l'époque. Et donc, elle le blesse pas du tout. Mais, évidemment, ça fait le tour de Paris. C'est un mini-scandale, à peu près étouffé par les bons soins, quand même, de cousins et des gens qui les entouraient. Le journaliste lui-même, admettant que Louise Collet avait quand même beaucoup de panache et de courage, admettant lui-même aussi qu'il avait été un petit peu loin quand même dans ses moqueries. Voilà.
On va faire une petite pause musicale, Jessica Nelson, et nous reprenons notre conversation. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Jessica Nelson, qui vient de publier L'Orageuse, un roman aux éditions Albin Michel. Jessica Nelson, alors c'est vrai que Louise Collet, c'est une sacrée bonne femme, comme on dit, un sacré caractère. Elle n'a pas que des amis, elle a même plutôt des ennemis au départ de sa vie. Je veux parler du critique Sainte-Beuve. Voilà ce qu'il dit de Louise Collet. On a entendu les vers de Madame Collet, la poésie de Madame Collet, c'est le simulacre du bien qui a un faux air de beau. Sa poésie a un assez beau busque, un buste, si vous voulez. C'est comme la dame elle-même. Alors c'est vrai qu'elle est sous-estimée parce que c'est une femme et une jolie femme.
Oui, elle pâtit de ça, hein, tout à fait honnêtement, parce que sa poésie, là je parle vraiment sur un plan personnel, c'est une jolie poésie mais qui n'a rien d'incroyable, mais c'est une belle poésie tout à fait honorable. Elle écrira par la suite des choses qui sont bien plus passionnante. Enfin, il n'y a pas de raison de la pourfendre ainsi. Et la haine que lui voue Sainte-Beuve, qui est un éminent critique de son époque, personnage très puissant, très influent, elle est un peu curieuse. Et alors, ça, c'est moi qui me suis imaginé ça, mais je pense que, enfin, c'est tout à fait plausible. Je pense que il a certainement dû être très attiré par elle et elle le repoussait. Ouais. Ce qui a généré une espèce de guerre qui a duré pendant des années. À la fin de leur existence, à l'un et l'autre, les relations se sont apaisées. Mais en tout cas, effectivement, dans ces années-là, il la déteste, il répond pas à ses lettres. Elle essaie de le solliciter pour obtenir des critiques de son travail dans la presse, j'entends. Et elle va essuyer rebuffade sur rebuffade de sa part. Et je pense qu'il y a effectivement une motivation derrière qui n'est pas des plus reluisantes.
C'est une sorte de dépit. À la fin, voilà, ils se retrouvent. Voilà ce que dit Sainte-Beuve. « Madame, vous exagérez, soupire le critique. Nous sommes de vieux ennemis, c'est-à-dire des amis sincères. Vous pouvez m'accorder un peu de confiance. » Il y a quand même l'ironie du sort dans tout ça. À la fin de la vie de Louise Collet, les choses se renversent un peu.
Oui, c'est vrai, mais je pense que les pics s'émoussent au fil du temps. Je pense que l'un comme l'autre, évidemment, avec des existences très remplies, très foisonnantes, très riches, évidemment que les rancœurs, elles finissent par s'apaiser, surtout qu'on parle quand même de deux esprits très brillants. Je pense qu'elle avait quand même la dent dure, hein, et lui probablement aussi. Mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, en tout cas, les documents qu'on connaît témoignent d'un rapprochement entre les deux. Et donc c'était intéressant pour moi d'imaginer aussi cette évolution-là dans le rapport, c'est-à-dire vraiment une guerre à peine masquée au départ, et puis une espèce de compagnonnage amusant, disons, sur leurs plus vieux jours.
Et puis elle a des, Jessica Nelson, Louise Collet a des admirations pour d'autres femmes. Voilà ce que vous écrivez. Elle suit par exemple avec attention les actions de Flora Tristan et la souscription lancée pour son livre « L'Union ouvrière ». La détermination de la militante à œuvrer pour les femmes et son parcours teinté de courage lui plaisent. Elle a fait la connaissance dans cette mouvance de femmes décidées à revendiquer leur liberté, de Marceline Desbordes-Valmore, ancienne comédienne, devenue poétesse, une nouvelle amie dont la compagnie lui est bénéfique. Elle recherche un peu des sœurs de combat.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est vrai que très certainement aussi, en tant que belle femme, elle devait avoir des relations de nature, enfin avec une rivalité, empreinte d'une rivalité avec certaines de ses consœurs. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi en creusant, en me documentant, en lisant, c'est qu'en effet, elle était surtout pleine d'admiration pour les femmes qui avaient ces convictions et qui étaient prêtes à enfin, en tout cas, qui voulaient assumer qui elles étaient et qui avaient l'intention d'écrire ou qui écrivaient déjà. Et là, je pense à sa toute première amitié féminine, qui est une femme aujourd'hui, hélas, oubliée aussi, Julie Candeille, qui était une actrice qui avait des salons littéraires dans le sud de la France et qui a accueilli Louise, qui devait avoir 17 ou 18 ans à peine, dans ses salons en province. Et puis ensuite, quand elle arrive à Paris, elle est pleine d'admiration déjà pour Georges Sand. Elle va essayer de s'en rapprocher. Évidemment, ça ne va pas marcher parce que Georges Sand la tient vraiment résolument à l'écart. Et puis, on peut parler aussi de Juliette Récamier. Là, oui, pour le voilà, coup, il y a eu une grande amitié entre les deux.
Avec Juliette Récamier. Et c'est vrai pour aussi Marceline Desbordes-Valmore, au Procope, qui rappelle de doux souvenirs à Louise. Marceline Desbordes-Valmore s'agite. Elle s'inquiète de constater sa cadette si pâle et éteinte. L'ancienne actrice, âgée d'une soixantaine d'années, est très soignée malgré son visage buriné. Mince, élégamment vêtue d'une robe de gaze de Chine verte à trois tuniques. Elle porte dans ses boucles brunes un turban assorti à son châle de dentelle de chantilly. Vous faites des portraits à chaque fois de ces femmes qui ont été très importantes au 19e siècle et bien sûr de Madame de Récamier. Ça va être une rencontre là très constructive, je trouve, pour Louise Collet.
Oui, tout à fait. Elle a trouvé, je pense, chez Juliette Récamier, cette amitié féminine et maternelle dont elle était privée à la mort de Julie Candeille, donc cette, je dirais, cette bienfaitrice de ses débuts. Et puis, Louise Collet a perdu sa mère jeune aussi, hein, et donc la disparition de sa mère, dont elle était très proche, qui était une grande lectrice, une femme sensible, avec vraiment une culture assez imposante. Et donc, Louise Collet, dans la personne de Juliette Récamier, a trouvé à la fois cette aura maternelle, je pense, réconfortante, et en même temps qui suscitait évidemment l'admiration. C'était une femme vraiment admirable, en tout cas, disent ses contemporains, et c'était une femme extrêmement populaire à tout point de vue. Et donc, Louise Collet a été très sensible à son charme. Elle a été admise dans le cercle d'intimes et d'amis de Chateaubriand, qui était le grand ami aussi de Juliette Récamier, et elle fréquentait toute cette société brillante de l'abbaye au bois dans le 6e arrondissement où vivait Juliette Récamier.
Et donc c'est Juliette Récamier va lui confier une mission posthume d'éditer, de publier ses lettres avec Benjamin Constant, sa correspondance. Vous avez raison, dit-elle, il faut que ce soit vous. Disons alors, quand je quitterai cette terre, vous parlerez de lui avec vérité. Nous lirons ses lettres ensemble, puis je vous les donnerai pour que vous les annotiez et les fassiez précéder d'un jugement équitable sur mon tendre calomnier. C'est une mission à la fois littéraire et d'amitié.
C'est magnifique, en fait. C'est le point de départ d'une histoire douloureuse, qui va être douloureuse pour Louise, parce qu'il va y avoir un procès, justement, voilà. À l'occasion. Mais c'est vrai que, imaginez votre grande amie, vous n'avez pas du tout envie de la perdre, mais qui sent que les forces l'abandonnent un petit peu, que l'âge arrive. Et Juliette Récamier conservait les lettres de Benjamin Constant avec elle. C'était une correspondance magnifique. Et donc, elle a cette confiance en Louise et elle lui demande de les éditer après sa mort, en expliquant et en ayant cette mission de, je dirais, de rendre à Benjamin Constant un peu de la popularité dont il était dépourvu à l'époque. Et ce qu'elle va évidemment s'empresser de faire quand Juliette Récamier disparaîtra, mais qui lui attirera les foudres de l'ayant droit de Juliette Récamier.
Oui, Amélie Le Normand.
Mmh. Amélie Le Normand, qui va pas être du tout d'accord, qui était la nièce de Juliette Récamier. Et qui probablement devait voir d'un très mauvais œil l'entreprise de Louise Collet, un petit peu comme une héritière qui verrait quelqu'un, je dirais, poser les pieds là où elle n'est pas autorisée à le faire, alors qu'on sait que du vivant de Juliette Récamier souhaitait que Louise s'en occupe, mais procès retentissant, scandale retentissant, et finalement Louise Collet n'obtiendra pas vraiment gain de cause, même si son honneur est lavé, puisque son avocat arrivera à démontrer que non, elle n'avait pas abusé de la faiblesse de Juliette Récamier. Oui, les lettres lui avaient bien été confiées de la pleine volonté de Juliette Récamier, mais elle en sortira quand même assez éprouvée et je dirais son honneur n'est pas bafoué, mais en tout cas, elle en sortira éprouvée. Je pense que c'est surtout ça, parce que je crois vraiment que quand elle a décidé de publier ses lettres et en les préfaçant, elle y allait vraiment avec son cœur.
Oui.
Et qu'elle n'imaginait pas tout ce qui allait lui tomber sur la tête ensuite.
Oui, c'est votre honneur est définitivement lavé, écrivez-vous. La Cour a proclamé votre innocence et votre bonne foi. Il vous suffira de payer les dommages et intérêts et les frais de l'appel. Il suffira. J'aimerais vous y voir, dit-elle. Alors, la grande rencontre, bien sûr, c'est Flaubert. Et je dirais tout à l'heure, je parlais de temporalité de Louise Collet. Ce qui les oppose le plus, c'est le temps, finalement. Lui est lent. Je dirais presque laborieux, enfin c'est un génie mais qui prend son temps, et Louise Collet est tout feu tout flamme et elle brûle les étapes. Donc déjà ces deux-là, racontez-nous leur première rencontre, Jessica Nelson.
Ah, elle est belle leur première rencontre. Alors elle a 35 ans. Elle est belle, elle est au fait de sa gloire, c'est une star de son époque, on l'a dit. Et lui est un jeune provincial qui ne connaît pas grand monde, qui est très ami avec un sculpteur du nom de James Pradier, et qui voilà vient de temps en temps à Paris, mais qui se retire de plus en plus de la vie mondaine et qui vient de passer 3 ans parce qu'il a déjà des crises d'épilepsie et que il sait qu'il a besoin de solitude, qu'il a besoin de ne plus boire d'alcool, de ne plus boire de café, d'être vraiment tranquille, reclus avec maman. Pardon. J'ai une petite dent contre Gustave Flaubert. Je l'avoue bien volontiers. Donc, quand les deux se croisent, elle pose pour James Pradier. Elle est dans l'atelier de Pradier. Il y a certainement du monde autour parce que les séances de pose du maître, évidemment, étaient scrutées. Et elle pose, je pense, dans une tenue plutôt pas nue, bien sûr, mais dans des tenues probablement un peu suggestives. Et donc, notre ami Flaubert, qui a 10 ans de moins, qui a 25 ans et qui, même s'il est plus lent qu'elle, évidemment, s'enflamme. Et donc, va la trouver sublime. Elle n'est pas indifférente du tout à son charme. Flaubert, à cette époque, c'est pas du tout le vieux monsieur barbu, un peu chauve et édenté qu'on garde en mémoire. C'est un... Alors, certains de ses contemporains disent que c'est un viking. Henry James a loué ses beaux yeux clairs, ses cheveux, etc. Donc, vraiment, c'est un beau mec, en fait. Et évidemment, il va y avoir un coup de foudre entre les deux. Et c'est le point de départ d'une liaison très orageuse et très pointilleuse et en pointillé.
Ouais. Et j'ai l'impression c'est un peu une chance aussi pour Flaubert, parce que c'est un vrai réveil matin, Louise Collet. Gustave, sortez de votre grotte. C'est la poétesse la plus tendance de sa génération. 2 fois sacrée par le nain. Donc c'est vrai qu'elle le secoue, elle l'oblige à sortir de lui-même. Et peut-être aussi à progresser en écriture, qui sait?
Ah, mais moi j'en suis convaincue. On en revient aux lettres dont on parlait tout à l'heure. Il a quand même, on n'a pas ses réponses à elle, mais on voit bien. Alors c'est pas vrai sur la longueur, mais en tout cas sur un certain nombre de lettres, il lui confie sa façon d'écrire, sa façon de travailler, sa façon d'écrire Madame Bovary. Évidemment, il s'en plaint. La Bovary avance à pas de tortue, écrit-il. Oui, certainement qu'elle a été un face-à-face intellectuel et littéraire précieux pour lui.
Ouais.
Et c'est certain que la voyant évoluer dans l'univers qui était le sien à elle, évidemment que c'est galvanisant pour un jeune poète, un jeune auteur qui a envie d'écrire des histoires, et Dieu sait qu'il a déjà quand même noirci quelques carnets derrière lui avant la rencontre avec Louise Collet. Donc c'est galvanisant tout ça.
Et puis elle a un concurrent donc dans son cœur, c'est Maxime Ducamp, et elle dit: êtes-vous un voyageur qui deviendra écrivain? Et puis le voyage, parce qu'avec Maxime Ducamp, c'est la vie de Flaubert, le Flaubert voyageur, donc il lui échappe forcément.
Ah oui, oui, mais c'est ça qui va la rendre dingue, parce que après la rencontre avec dans l'atelier de Pradier, il y a quelques nuits un petit peu torrides à Paris, mais lui va vite rentrer dans sa Normandie, dans sa Normandie chérie, et il va la laisser seule à Paris. Et elle, au départ, est vraiment convaincue qu'il va revenir vite et qu'ils vont vivre un amour extraordinaire. Elle est convaincue d'avoir rencontré une âme sœur, et je pense que cette passion qu'elle a pour Flaubert, évidemment, dépasse toutes celles qu'elle a connues avant, même si c'était important, évidemment, ce qu'elle a vécu avant aussi. Mais ça dépasse un peu tout ce qu'elle a connu jusqu'alors. Et malheureusement, lui, malgré les sentiments qu'elle lui inspire, comme vous le disiez très justement, va se retirer. Et je pense qu'elle lui fait peur aussi, parce que à force de trop vous sortir de votre zone de confort, vous pouvez, enfin voilà, il a très certainement voulu se réfugier à un moment, et il est resté dans son refuge. Et donc c'est une liaison qui va se durer sur plusieurs années, mais assez malheureuse pour Louise Collet.
Ouais. C'est un goujat quand même, hein. Non content de ne pas me visiter et de fixer des rendez-vous qu'il ne tient pas, il me prend pour un relais de poste.
Oui, parce que en fait, que évidemment, la correspondance marche bien, et là pour le coup, les échanges sont rapides, hein. Quand on voit les dates auxquelles les lettres sont écrites et auxquelles elles arrivent, c'est assez rapide. C'est pas mieux que le téléphone, mais enfin, ça fonctionne pas mal. Et en fait, comme elle les évidemment, il va se servir aussi d'elle pour envoyer des lettres. Alors ici, à une ancienne maîtresse. Et puis là, évidemment, j'ai forcé le trait un peu en écrivant relais de poste. Mais c'est vrai qu'il a une attitude avec elle qui est assez consternante pour un homme qui se dit très amoureux. C'est-à-dire que tantôt, il y a une déclaration enflammée. Et puis, la minute d'après ou la lettre d'après, il va la refroidir comme une douche, quoi. C'est vraiment, mais qu'est-ce que l'amour? On l'utilise à toutes les sauces, ça veut pas dire grand-chose. Donc, il passe son temps. Et c'est ça qui est assez... Je pense qu'aujourd'hui, on dirait que c'est une relation toxique. Il passe son temps à l'attiser et puis ensuite à l'éteindre. Et évidemment, la pauvre, elle a pas l'habitude qu'on lui résiste non plus. Donc, elle est constamment dans cet esprit. Espèce de frustration et d'excitation à l'idée de le revoir, sauf qu'elle le voit jamais. Ouais. Et c'est principalement une relation épistolaire entre les deux.
Voilà ce qu'elle répond. Vous dites maladroitement: l'amour est le plus grand art, il est sans phare. Elle ne triche pas, Louise Collet, c'est ça un peu son problème peut-être.
Ouais, certainement, elle triche pas. Elle est assez peu stratège. Ce qui lui a joué des tours, parce que elle se livrait assez entièrement, et ses colères étaient sincères, ses emportements étaient tout à fait honnêtes et authentiques, mais ses passions et son amour et son engagement pour la littérature l'étaient aussi. Mais oui, on peut payer sa sincérité.
C'est une femme sincère. Je suis si sentimentale avec Gustave, c'est désespérant, vous lui faites dire, Jessica Nelson, mais le ridicule amoureux, c'est aussi sublime. Il m'a écrit qu'il aimait ma compagnie lorsque je n'étais pas orageuse. Le titre, l'orageuse, vous est venu comment, Jessica Nelson?
C'est cette phrase. Voilà. C'est cette phrase. J'ai hésité longtemps parce que je me suis dit que je voulais pas qu'on la réduise à être la maîtresse de Flaubert. Donc, en fait, la partie qui concerne Flaubert dans le bouquin, elle est, je pense qu'elle est juste relativement à la place qu'il a lui-même occupée dans sa vie. Mais je voulais pas en faire le pivot central de ce livre. En revanche, c'est vrai que ce mot, ce qualificatif, ce nom m'a beaucoup intriguée, parce que dans Orageuse, je n'entendais pas que le fracas. J'entendais aussi, c'est bizarre, hein, ça vous semblait étrange, mais je voyais aussi le soleil après l'averse. Et donc je voyais quelque chose de parfois brutal et parfois doux, et en même temps de très prometteur et de très ensoleillé une fois qu'on a passé la pluie.
Le cap de la pluie. Alors vous écrivez encore: elle ne supporte plus que Gustave lui donne du ma vieille amie. La graisse à son tour.
Alors là, franchement, je crois que n'importe quelle maîtresse un peu triste de voir son amant loin, en recevant une lettre où on vous appelle ma vieille amie, c'est pas terrible. Donc je pense, alors il l'appelle pas ma vieille amie au départ, mais enfin ça va glisser vers ça quand même au fil des lettres, et surtout de la deuxième étape de leur liaison amoureuse. Et franchement, moi ça m'aurait rendu cinglée, pas vous?
Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est une femme qui... Le vieillissement, d'ailleurs, on ne la voit pas vieillir hein, dans votre livre tellement. On voit toujours qu'elle est pleine d'entrain, pleine d'ébullition. Quel a été votre... Comment vous avez fait pour écrire ce roman, Jessica Nelson? Vous êtes fiée à la correspondance, il a fallu aussi vous en détacher. Quelle est la part d'imaginaire et la part de source historique?
Alors, en fait, 90% de ce que je raconte factuellement est vrai. Après, tous les dialogues sont évidemment inventés, toutes les mises en scène, elles sont imaginaires, mais c'est vrai qu'il y a un ancrage dans le réel qui est assez fort, en tout cas que j'ai essayé d'être la plus juste possible. Quand elle prend un café avec Musset dans un café qui s'appelle Le Régent, bah il y a vraiment un café qui a existé exactement à l'endroit que je raconte, exactement avec ce genre de décor que je décrit et qui servait exactement au genre d'activité que j'y place.
D'accord.
Donc après tout ce que j'y mets à l'intérieur, évidemment encore une fois les conversations, sauf si vraiment je l'ai emprunté aux sources historiques que je notifie d'ailleurs, mais sinon les conversations, les sentiments, les intuitions, les hypothèses, les doutes, les craintes, tout ça évidemment c'est le fruit de, je dirais c'est la fiction, c'est le fruit de l'imagination. Mais je pense que la fiction permet souvent de se rapprocher, même quand la documentation peut faire défaut, mais l'imagination permet de se rapprocher d'une vérité humaine intéressante.
Mmh. C'est ça qui vous intéresse en tant que romancière?
Oui, beaucoup, parce que je trouvais ça tellement incroyable, ce parcours, tellement vaste, elle est passée par tellement de, je dirais, d'épreuves aussi, hein. On parle de ses succès, de ses amours, etc. Mais elle a vécu de vraies épreuves très douloureuses. Elle a perdu deux enfants en bas âge. Elle a vraiment lutté dans un monde masculin pour imposer sa plume, pour imposer sa vision, pour imposer sa voix. Et donc tout n'a pas été simple. Et tout n'est pas expliqué, je dirais, dans les documents historiques qui existent. Donc oui, la fiction permet ça.
Permet ça, c'est aussi votre roman, une interrogation sur l'écriture. Par exemple, vous dites que Flaubert, il va faire du Balzac chateaubriandisé, c'est lui qui le dit d'ailleurs. Mais leur échange tient sur cette interrogation sur l'écriture.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, ce qui m'a lancée dans l'écriture, c'était l'absence de lettres écrites par Louise Collet. Donc c'était à la fois un point de départ, un point de frustration, parce que j'aurais vraiment aimé lire ses réponses, et en même temps, une porte ouverte à mon imagination. Et parce que, puisque ces lettres n'existaient plus, il fallait bien essayer de créer quelque chose.
Donner un peu la parole.
Donner la parole. Et puis après, vous savez, quand vous me posez la question de comment je l'ai écrit, j'ai beaucoup laissé infuser tout ce que j'avais lu pendant 2 ans. Alors en cours d'écriture, je continue à me documenter beaucoup. Si par exemple la scène où elle rencontre Chateaubriand devant chez lui, c'était impensable pour moi quand j'ai commencé à l'écrire de pas savoir physiquement à quoi ressemblait le quartier. C'est tout bête, mais n'empêche que ça m'a demandé plusieurs heures de recherche derrière et de lecture pour essayer de restituer un cadre tout à fait le plus juste possible. Mais en amont de l'écriture elle-même, évidemment, j'ai lu son œuvre à elle et j'ai essayé de la comprendre. Je pense que c'est vraiment ça, c'est le travail de compréhension de qui est ce personnage, pourquoi il écrit, quelles sont ses motivations et quels sont ses moteurs.
Son élan vital,
ses déceptions, ses enthousiasmes. Et je pense que ça, quand même, comme on a la chance qu'elle a laissé cette œuvre si conséquente, une fois qu'on a fini de tout lire, je pense que j'ai quand même, je dirais pas que j'ai absolument tout lu, mais j'ai dû quand même en lire 85 ou 90%, on comprend qui on a en face de soi. Parce qu'il y a aussi cette diversité dont on parlait tout à l'heure, roman, poésie, essais, récits de voyage, etc.
Donc la multiplicité des écrits vous ont permis de...
C'est un peu comme les pièces d'un puzzle, en fait. Mmh. Et donc quand vous les mettez toutes au début sur la table, c'est un peu vertigineux parce que vraiment, c'est pas un puzzle à 100 pièces. Mais une fois que vous avez bien regardé chacune des pièces et que ça prend forme tout doucement, et moi j'avais l'impression que finalement, à la fin, on était des vieilles copines.
On va faire une petite pause musicale, Jessica Nelson, et nous reprenons notre conversation autour de Louise Collet.
Thank you.
êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui en présence de Jessica Nelson qui vous présente son nouveau roman, L'Orageuse. Ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. En Jessica Nelson, c'est vrai, c'est mouvementé, c'est les rapports entre Louise Collet et Flaubert. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est le côté théâtral aussi de votre roman. Vous écrivez, par exemple, en lui, il écrit que ma Bovary m'embête, je commence à m'y débrouiller pourtant un peu. Je n'ai jamais de ma vie rien écrit de plus difficile que ce que je fais maintenant du dialogue trivial. Mais je crèverais plutôt dessus que de l'escamoter. Et elle répond, escamote, mon vieux, escamote. J'ai beaucoup aimé ça.
Oui, ça c'est très... C'est-à-dire, comme je pense que c'était une femme extrêmement vivante et avec un sens de la repartie, c'est quand même costaud, elle devait piquer aussi. Et donc, c'est vrai que dans les dialogues ou dans les échanges épistolaires, me glissant à sa place, je l'imaginais un peu, un peu punchy. Marrante aussi. Ouais, punchy, marrante. Je pense qu'elle était vraiment pas dépourvue d'humour. Certes, elle devait être une grande casse-pied. Mais sa compagnie devait être tellement amusante et tellement vivifiante. Et je pense que c'est ce qui avait plu d'ailleurs à Chateaubriand et à Juliette Récamier quand ils l'ont admise dans leur cercle.
Alors c'est vrai. Alors j'ai l'impression que je ne sais pas si j'ai bien lu. Il corrige les textes Flaubert ce que vous écrivez. Il corrige les textes qu'elle lui soumet inlassablement. Le problème de Louise, c'est qu'elle écrit trop vite et qu'elle a le lyrisme d'un violon russe. Il a beau la réfréner, désapprouver ses emportements littéraires, rien n'y fait. Elle est sourde. Plus il la supplie d'avoir un regard critique sur elle, et plus elle joue à l'animal sauvage qui n'entend rien. Elle est ingérable, hein, Louise Corré.
Oh bah c'est super vexant en même temps. Regardez le ce garçon il a rien publié, personne le connaît, et puis au bout d'un moment, surtout dans la deuxième phase de leur histoire d'amour, dans leur liaison, le voilà qui prend quand même confiance en lui et qui se met à lui corriger ses poèmes et qui se met à lui faire des remarques sur son travail, certainement avec un bien fondé à certains endroits, mais il le fait avec beaucoup de... c'est très cavalier, quoi. Mmh. Voilà. Et je trouve qu'il a... Et vous disiez tout à l'heure qu'il s'était comporté comme un goujat, et c'est vrai. Et il était goujat et cavalier avec elle, je dirais 90% du temps, ce qui fait beaucoup. Mmh. Et donc, oui, elle avait l'habitude, mais je pense pas qu'elle attendait forcément ça de lui. Elle avait l'habitude de lui envoyer des textes qu'elle écrivait, et lui, il lui renvoyait des copies corrigées comme à l'école, ce qui est quand même très agaçant. Mmh. Donc, ingérable, oui. Et en même temps... je pense que n'importe qui d'autre à sa place aurait eu la même réaction.
Mais lui a un côté homme-enfant et elle a quand même, c'est ce qu'il laisse transparaître votre roman, la nécessité de vivre, oui. De gagner sa vie.
Tout à fait, et ça aussi c'est intéressant dans le personnage, c'est qu'elle refuse obstinément de se mettre sous la protection d'un homme. Alors évidemment au départ elle est mariée, mais le ménage a très peu d'argent, donc c'est elle qui va au Turbin, c'est elle qui va qui écrit beaucoup pour publier ses articles souvent, et pour retirer quelques subsides, et donc elle comprend très vite cette nécessité de pas juste rester derrière ses fourneaux. D'ailleurs elle supporterait pas ça, mais en tout cas il y a cette double nécessité artistique et financière. Et puis quand son mari meurt, là encore elle refuse de se mettre sous la protection d'un homme qui lui apporterait le confort de vivre. Elle aurait pu épouser Victor Cousin, et Victor Cousin lui aurait procuré, et d'ailleurs je dirais que puisqu'il était le père supposé de son enfant, il les a aidés financièrement, mais elle acceptait l'aide financière pour sa fille, mais pour elle-même elle était déterminée à rester complètement indépendante. Alors oui, elle recevait aussi des rentes d'État, mais c'était pour son travail.
Voilà, c'est une femme qui travaille. Alors, une autre rencontre avec un autre goujat, on va dire, c'est Alfred de Musset. ça se passe. Musset marque une pause et reprend. L'histoire acceptera alors de les graver dans des stèles. Personne ne saura jamais qui était Aurore Dupin, baronne d'Ulvan. Et il se fige à l'évocation de son ancien amour, mais on louera pendant des siècles Georges Sand. Alors, bien sûr, derrière Musset, il y a toujours Georges Sand, l'ombre de Georges Sand. D'ailleurs, elles sont mortes la même année, 1876, Louise Collet et Georges Sand. On sent que c'est... Voilà, il y a comme une sorte de duel à distance.
Ouais, c'est une drôle de relation parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient les rassembler, mais que d'entrée de jeu, alors que Louise Collet a essayé de s'en rapprocher quand elle est venue à Paris, d'entrée de jeu, le Georges Sand la tient à l'écart. Et est-ce que elle la trouvait je sais pas, trop prétentieuse, trop jolie, trop orageuse, hein, c'est possible. Mais en tout cas, dans les, y a des lettres là pour le coup aussi qu'on connaît, qui montrent que les tentatives de Louise se soldent par un échec et que Georges Sand ne l'aime pas beaucoup, même si elle s'en défend, même si elle fait semblant d'être plutôt amicale, alors que finalement elle n'est pas tant que ça. Et la brouille entre les deux va être, je dirais, va éclater au grand jour quand, mais là Musset est mort, mais après la mort de Musset, Georges Sand écrit un livre sur ses amours avec Musset et Louise Collet va y répondre par un autre ouvrage. Et donc là, il y a une espèce de guéguerre à travers des livres interposés autour de la figure de ce pauvre Musset qui doit se retourner dans sa tombe d'ailleurs.
Alors, un autre personnage avec lequel elle a des points communs, c'est Victor Hugo, qui est très bienveillant pour elle. Hein. Et je dirais que le premier point commun entre Victor Hugo et Louise Collet, c'est que tous les deux aiment l'infini. Tout est démesuré chez elle, écrivez-vous, ses sentiments, ses emportements, son exaltation, son originalité, son talent. Et c'est ainsi que Louise l'a définitivement conquis sur un terrain qui n'est pas celui de la séduction.
Oui, et c'est vrai que ça faisait partie des éléments qui m'ont vraiment interpellée. C'est-à-dire que la correspondance, et là on a les lettres de Louise, donc ça c'est chouette. La correspondance Victor Hugo-Louise Collet, elle est magnifique. Et on voit que lui est très interpellé par son talent à elle, et qu'il a de l'estime pour elle. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, voilà, le plus grand génie du 19e siècle qui reconnaît en elle une des grandes romancières de leur époque, c'est pas banal. Ça veut vraiment dire quelque chose. Et qu'a pris de l'Académie française, évidemment aussi. Mais l'admiration de Victor Hugo, c'est encore une autre paire de manches. Et ça m'a vraiment interpellée. Et c'est vrai que quand on creuse cet aspect-là des choses, eh bien, on apprend qu'il a reçu Louise Collet à Guernesey. Elle lui a rendu visite. D'ailleurs, elle était en train de terminer sa liaison avec Flaubert, donc elle était très probablement assez malheureuse et vraiment pas bien dans sa peau. Mais elle rend visite à Victor Hugo exilé. Et c'est vrai qu'entre les deux, il y a cet échange et cette admiration mutuelle qui sont pour moi autant de signaux, si vous voulez, que la réhabilitation de Louise Collet est nécessaire.
Ouais. Voilà ce que vous écrivez. Il s'est fait étriller par Sainte-Beuve comme elle. Elle aime les romans historiques. On dit de lui qu'il était le Walter Scott français. Il se voit l'emmener à Marie Giraud en Charente, dans le domaine où il se retire. Et puis, alors, sur Musset d'ailleurs, Hugo a dit de mon théâtre, on me l'a rapporté, qu'il n'était qu'une bulle de savon. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont une belle relation, je dirais, hors séduction.
Alors, hors séduction, oui, tout à fait. Et après, on peut jamais être sûr de rien. Moi, ouais. J'étais pas dans leur salon quand ils se sont rencontrés à Guernesey et je peux pas vous garantir qu'il ait pas été attiré par elle. Mais c'est probable que non. C'est probable qu'il n'y ait pas eu d'autre chose que cette amitié littéraire dont on parlait il y a un instant. Et ça l'a très certainement aussi beaucoup aidé, elle, dans des moments difficiles, parce que il suivait ce qu'elle vivait à distance. Elle lui racontait ce qui se passait à Paris, puisque lui, il était un peu en exil, il n'avait pas tout à fait les nouvelles. Il recevait des nouvelles grâce à elle. Et je pense qu'il y avait cet échange assez beau entre les deux, et qui s'étendait même jusqu'à la femme de Victor Hugo, qui appréciait Louise Collet. Voilà. Et après, Juliette Drouet appréciait beaucoup moins Louise, parce que là, pour le coup, elle devait s'inquiéter d'une rivalité possible. Mais pour moi, la relation Hugo-Collet était pleine de cette noblesse littéraire dont on parlait il y a un instant.
Et puis, alors, la relation très curieuse de Louise Collet avec la maternité. Heureusement, son nouvel opus, Enfant célèbre, est un succès en librairie. C'est même le meilleur démarrage de l'un de ses livres. N'est-ce pas paradoxal, dites-vous, pour une femme qui s'est si peu intéressée à l'enfance de sa fille, de mettre en lumière celle des monstres sacrés, comme Mozart, Rameau, Pascal, etc. Donc c'est vrai, elle a eu 3 enfants, je crois, dont 2 morts, deux fils qui sont morts.
Exactement, et Louis et Henriette, pardon, qui est donc, dont on ignore si elle était la fille de Victor Cousin ou d'Hippolyte Collé. La petite Henriette va vivre tantôt chez la nourrice, tantôt chez les bonnes sœurs. Et donc c'est vrai qu'elle a une relation avec sa mère qui est pas simple. Maintenant, j'aurais bien aimé lire plus de choses à ce sujet, mais j'en ai pas trouvé. Mais c'est certain que leur relation n'était pas simple. Et donc, dès qu'Henriette peut quitter Paris et se marier, s'éloigner de sa mère, elle le fait d'ailleurs. Mmh. Et elle va se retirer à Verneuil-sur-Avre, en Normandie. Et c'est là d'ailleurs que Louise Collet est enterrée, puisqu'elle rendait visite à sa fille et que c'était là que se trouvaient finalement les derniers membres de la famille de Louise Collet. Mmh. Je parle pas de sa famille, je dirais, dans le sud de la France, mais en tout cas de sa proche famille.
Est-ce qu'on peut dire que Louise Collet, Jessica Nelson, est une guerrière ? Elle s'est quand même engagée politiquement, elle était fourriériste.
Alors, elle était surtout très républicaine. Oui. Je dirais qu'elle suivait les traces de son grand-père paternel en cela. Son grand-père paternel qui avait, au moment de la Révolution française, était vraiment du côté du peuple et des paysans, alors que lui-même était d'extraction plutôt noble, grand ami de Mirabeau. Et donc, elle poursuit cette tradition, je dirais, initiée par son grand-père maternel qu'elle admirait beaucoup. Et elle se place assez systématiquement du côté effectivement du peuple et des femmes, et c'est vrai que c'est un peu une féministe avant l'heure, et d'ailleurs dans la, je dirais, les dernières décennies de son existence, elle va faire des conférences à l'attention des femmes et se battre pour que les femmes existent en tant que femmes. Et je pense que c'est pas du tout un hasard qu'elle ait refusé de porter un pseudonyme masculin, qu'elle ait pas du tout essayé de s'habiller en homme comme le faisait George Sand. Elle a assumer pleinement et entièrement sa féminité.
Ouais. Et à un moment donné, on peut dire, vous vous êtes trompée, vous n'êtes pas faite pour l'amour, vous êtes faite pour la guerre.
Oui, ça c'est ça. C'est un dialogue imaginaire avec sa fille. Mais c'est vrai qu'en progressant dans la narration, dans le récit de son histoire, il me semblait que chacune des étapes importantes de sa vie était marquée par un vrai combat, et que tout se passait évidemment plus dans un combat et dans l'entrechoc des armes que dans la douceur de l'amour. Vous allez me dire, c'est malheureusement le cas d'un certain nombre d'héros et d'héroïnes de l'histoire, histoire littéraire ou autre d'ailleurs. Mais c'est vrai que chez elle, il y a ce sens du combat et ce sens de vouloir se battre pour ses idées, tout à fait. Mmh.
Et puis donc elle meurt en 1876, 6 ans après la Commune, je pense, hein, et la guerre de 70. Et voilà ce que vous écrivez un peu à la fin de votre livre. On l'a enterrée vivante, qu'à cela ne tienne, elle peut renaître indéfiniment, tant qu'elle est encore en vie, tant qu'on parle encore d'elle, tant que l'on écrira sur elle. C'est vrai que Louise Collet a eu un long purgatoire.
Oui, bah écoutez, déjà de son vivant, c'est vrai que quand Flaubert accède à une notoriété, disons-le, avec Madame Bovary, qui fait scandale à l'époque, mais qui est quand même un grand succès de librairie, je pense que tout un cénacle de jeunes gens très doués d'ailleurs, hein, c'est pas le talent qu'on remet en question, mais les Maxime Ducamp, qui est à la tête d'une revue, tous ces jeunes gens qui avaient fréquenter les salons de Louise et profiter de ses largesses, et Dieu sait qu'elle avait peu d'argent, se sont retournés contre elle et l'ont déjà de son vivant beaucoup critiqué, beaucoup descendu, ont beaucoup, je dirais, amoindri la force de ses écrits. Barbé d'Aurevilly et ses bas bleus, évidemment, alors là c'est publié quelques années après la mort de Louise Collet, mais enfin quand même, il parle évidemment d'elle et elle fait partie de ses cibles. Et donc je dirais dans la dernière partie de sa vie et après sa mort, les écrits qui la descendent et qui descendent les femmes d'une manière générale, il y en a beaucoup. Donc elle a évidemment pâti de cela, et on l'a redécouverte plus récemment grâce à, je pense au travail par exemple de Joëlle Garde, hein, qui est une universitaire qui nous a quittés aujourd'hui, mais qui a retranscrit les mémentos de Louise Collet, et Dieu merci, parce que Louise Collet avait une écriture difficile à déchiffrer, et grâce au travail aussi de Francine Catherine Duplessis-Gray, qui a écrit une biographie dans les années 90. Mais voilà, c'est un travail qui doit être renouvelé, continuer, marteler, pour qu'on puisse qu'on recommence à la lire. Moi, j'adorerais qu'on mette la vérité sur l'anarchie des esprits en France au programme des élèves, pour comprendre ce que c'était que la Révolution française et tout ce qui a découlé de la Révolution française au 19e. Et ça, c'est Louise Collet qui le raconte dans un essai génial dont personne ne parle. C'est dommage, parce que c'est des témoignages d'une époque et avec une pensée active et lumineuse qu'on gagnerait à redécouvrir.
À redécouvrir. Alors, elle a toujours été victime des rumeurs, Louise Collet, jusqu'à la fin d'ailleurs. Dire qu'en mars, écrivez-vous, le journal Rappel a osé annoncer son décès à Nice d'un ulcère à la langue. C'est fou, ça.
Bah oui, d'un ulcère à la langue, surtout pour elle qui parlait beaucoup, évidemment. C'est à la fois cocasse et en même temps désastreux. Mais oui, mais c'est comme toutes les personnalités, je dirais, en vue, elle suscitait beaucoup de commérages, beaucoup les regards et beaucoup la malveillance aussi, bien sûr. Mais voilà, après, ajouter à ça, effectivement, un tempérament qui n'était pas, certainement pas simple au quotidien, et ceci suffit à rendre des choses difficiles pour la postérité.
Ouais. En quoi la compagnie de Louise Collet vous a modifié, changé? Est-ce que l'écriture de ce roman, il y a un avant et un après?
Ah oui, 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 bien sûr. Écoutez, j'étais vraiment beaucoup dans l'admiration, évidemment, de ce personnage, tout en voyant les erreurs qu'elle avait pu commettre, qui me la rendaient encore plus touchante, hein, d'ailleurs. Mais il y a des moments où je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais si j'avais été son amie à cette époque, je l'aurais mise en garde. Et en même temps, même si je l'avais mise en garde, probablement qu'elle aurait fait les mêmes erreurs. Mais vous voyez, quand on s'approche comme ça d'un personnage, évidemment, c'est très touchant. Évidemment qu'il y a des leçons, des petites leçons de vie qu'on peut en tirer. Moi, ce que ça m'a vraiment... ce qui m'a frappé, c'est vraiment encore une fois la diversité de ses talents d'écriture. Voilà. Et je trouve que pour comprendre une époque, il faut revenir à ceux qui l'ont vécu et ceux qui l'ont raconté. Et Dieu sait qu'elle a bien raconté son époque.
Ouais. Elle l'a bien raconté. C'est une femme de métier qui avait le petit et le grand métier.
Oui, et qui, écoutez, je sais pas si on peut vraiment dire que c'était le premier grand reporter en jupon de l'histoire, mais enfin, encore une fois, imaginez une femme dans les années 1850, 60, qui part en Italie pour suivre Garibaldi, pour comprendre ce qui s'y passe. Imaginez une femme qui va couvrir l'inauguration du canal de Suez. Imaginez une femme qui va descendre dans la rue pendant la Commune pour comprendre pourquoi il y a la Commune. Bah, c'est quand même admirable.
D'ailleurs, dans votre livre, il y a un chapitre sur la Commune.
Oui, il y a un chapitre sur la Commune. Donc, évidemment, elle l'a vécu de près. Elle était dans Paris. Elle est descendue pour voir de ses yeux ce qui se passait. Elle avait des sympathies tout à fait affichées pour les communards, même si elle ne faisait pas du tout l'apologie de la violence. Mais sa sympathie, elle est plutôt du côté des communards. Et elle a écrit des pages sur ces journées terribles de toute beauté. Des pages qu'elle avait envoyé, me semble-t-il, à un de ses cousins avec lequel elle correspondait et qu'on peut trouver maintenant dans la plupart des ouvrages numérisés sur Gallica. Merci Gallica. Mais ouais, elle a écrit des pages splendides sur la Commune. Ça sent la poudre, c'est vraiment du vécu. Et là, encore une fois, c'est là que j'insiste sur le côté témoignage d'une époque.
Alors, Jessica Nelson, vous venez aussi de remporter, vous êtes la première lauréate du prix de la ville de Verneuil-Davre, dit-on. Est-ce que, d'abord, ça va être une grande joie pour vous, est-ce que vous établissez un lien avec vos lecteurs et vos lectrices, le courrier des lecteurs? Est-ce que vous en recevez? Est-ce que vous y répondez? Est-ce que c'est important, ça, pour vous, ce lien-là avec vos lecteurs?
Bah, c'est pour ça, je pense, qu'on écrit aussi. Enfin, on écrit d'abord peut-être pour répondre à une urgence tout à fait personnelle. Et après, la grande joie, évidemment, c'est de le partager avec d'autres. Donc, oui, bien sûr. Alors après, le courrier, maintenant, c'est plus du courrier à la main. C'est plutôt des emails. Mais c'est génial. C'est génial d'avoir des retours de gens qui ont maintenant envie de lire Louise Collet, en fait. Et je pense que c'est un peu là, quand même, l'objectif premier. C'est d'interpeller sur une grande bonne femme, une superstar des lettres du 19e qu'on a oubliée et qu'il faut absolument relire.
Vos admirations littéraires à vous, Jessica Nelson, quand vous écrivez, est-ce que vous avez des... quelles sont vos grandes admirations, les écrivains que vous lisez, relisez?
Alors, écoutez, le plus grand pour moi, c'est Jean Cocteau. Jean Cocteau, c'est vraiment ma grande découverte de l'adolescence et qui ne m'a plus quittée. C'est par Jean Cocteau que j'ai approché Raymond Radiguet aussi, ouais. Le roman que j'avais écrit sur Raymond Radiguet. Et Jean Cocteau, voilà, lui aussi, c'est un point commun avec Louis Collet que j'avais pas pensé jusqu'à présent. Mais c'est vrai que ce soit le théâtre, le cinéma, de la poésie, du roman, il était doué dans toutes les formes d'écriture. Et ça, je trouve que c'est assez magique. C'est que vous pouvez passer d'un univers à un autre, d'un divertissement à un objet plus sérieux avec la même élégance. Et c'est l'élégance et la sensibilité de Cocteau qui m'ont bouleversé quand j'avais 14 ou 15 ans, qui m'a donc plus quittée. Et c'est vrai que pour moi, c'est un auteur majeur.
L'éclectisme aussi.
Oui. Oui, et puis la volonté de transformer un galet en œuvre d'art, la volonté de trouver du beau ou d'en créer à chaque instant. Je pense que c'est un peu ça qui le caractérise. Et évidemment, j'y suis très très sensible.
Alors Louis Collet, c'est aussi la mode. On peut la considérer comme une artiste.
Ah oui, je pense qu'on peut. Oui. Et vous avez raison de souligner son goût pour la mode. Donc elle a écrit effectivement des articles. Très très savoureux sur les chapeaux, sur les tenues. Et d'ailleurs, je lui ai emprunté, je lui ai pas emprunté des descriptions en tant que telle, mais en tout cas, je me suis inspirée des descriptions qu'elle faisait des tenues, des toilettes à la mode, pour décrire quelques silhouettes dans le livre.
À quoi ressemble votre univers d'écriture, Jessica Nelson? Est-ce que vous écrivez en musique, en silence? Est-ce que vous avez besoin de livres autour de vous ou pas?
Alors ça dépend des ouvrages, mais pour Louis Collet, évidemment j'avais une documentation abondante, donc j'étais entourée de livres d'histoire parce que évidemment je voulais pas me tromper. Ça c'est mon côté un peu scolaire sans doute. Et puis j'avais c'était surtout de la documentation que j'avais autour de moi. Et après j'ai écouté quand même pas mal de musique de son époque, pas forcément des musiques qu'elle aimait, hein, même si on sait qu'elle avait un goût certains pour la musique italienne baroque, mais enfin oui, il y avait un univers musical proche de celui-ci.
Les photos aussi, j'imagine qu'il y a eu des photos de Louis Collet.
Alors il y a des peintures.
Voilà.
Il y a des peintures. Alors celle qu'on voit sur le bandeau, ça n'est pas une peinture de Louis Collet. C'est une mais qui nous inspirait beaucoup parce que vous voyez cette femme alanguie avec un livre dans la main. Et finalement on se représente bien Louis Collet dans ce type de d'alanguissement et de rêverie.
Et de désordre aussi.
Et de désordre et bien sûr. Oui, c'est tout à fait.
Il y a un côté bohème.
Il y a un côté bohème et en même temps très classique, ce qu'elle était. Elle était les deux.
Vos projets, Jessica Nelson, est-ce que vous laissez un temps entre chaque livre? Est-ce que vous avez déjà en tête un prochain roman? Ou est-ce que ça sera un essai?
J'ai en tête, bien sûr, j'ai en tête, et en même temps, c'est vrai que c'était quand même assez, c'est un travail assez soutenu pendant quelques années. Donc là, je me laisse un peu de temps, et en même temps, j'étais en train d'écrire autre chose quand Louis Collet est venu frapper à ma porte. Donc je peux pas vous garantir. Enfin, c'est étonnant parfois l'écriture, on se lance dans quelque chose et puis il y a un autre sujet qui vous emporte avant et qui exprime sa nécessité de passer avant. Et c'était le cas de Louis Collet. Donc pour le moment, je musarde.
C'est les personnages frappent à votre porte?
Ah oui. Ah ben j'écrivais pas encore, mais j'étais en train de me plonger dans autre chose, dans un roman qui a rien à voir. Et elle est vraiment venue frapper. Enfin, elle a pas frappé. D'ailleurs, elle est rentrée, hein, mais
par réfraction.
Quasiment.
Vos conseils de lecture concernant Louis Collet, si un jeune auditeur, même moins jeune, qui n'a jamais lu Louis Collet, comment fait-il? Il va sur Gallica?
Alors, il y a eu quelques rééditions. Il y a quelques années, je ne me souviens plus de l'éditeur, mais en tout cas, ont été réédités quelques-uns de ses romans, dont, me semble-t-il, un roman qui s'inspire en partie de sa liaison avec Flaubert. Je crois que c'est une histoire de soldat qui a été rééditée. Et il me semble que son roman à clé, où elle parle de Musset, dont on parlait tout à l'heure, je crois que celui-ci a été réédité aussi. Mais sinon, vous pouvez trouver, évidemment, sur Gallica, les textes numérisés. Sinon, celui que je conseillerais vraiment, c'est donc La vérité sur l'esprit de l'anarchie en France, parce que c'est donc ce texte-là où elle analyse les ferments du siècle révolutionnaire qui a été le 19e siècle, en expliquant pourquoi et en y trouvant donc les racines dans les espoirs déçus de la Révolution française. Et ça, je trouve que c'est assez fort.
Merci à vous, Jessica Nelson.
Merci beaucoup.
Comme des rats dedans Paris par trahison, on nous a pris. Le macadam et les pavés de notre sang furent lavés.
Lavés et dans la baie qu'ils en sont disjointés.
Dansons la communarde, fête de l'amour, fête de l'amour. Dansons la communarde, fête de l'amour, nom de nom. Les rodades capitulaires ont mitraillé les communards. Et devant messieurs les Prussiens tremblant comme des petits chiens.
Ils ont vendu leur peau, leur pays, leur drapeau.
Dansons la communarde, et de l'amour, et de l'amour. Dansons la communarde, et de l'amour, nom de nom. Tous les tiers, tous les macmarrons pour se laver de leur affront. On voulut prendre un bain de sang qui nous prit en nous écorchant. La communarde et de l'ombre et de l'ombre. Dansons la communarde et de l'ombre, nom de nom. Mais avec que ça n'est pas tous les bons bourgeois ont fait le coup. Et comme en juin tous les premiers qu'ils ont traqués les ouvriers. Et nous savons qu'alors 35 000 en sont morts.
Dansons la communarde et de l'ombre et de l'ombre.
Dansons la communarde et de l'ombre.